le magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous, agréable condition d'écoute des programmes de Radio Capi qui vous propose le magazine des Nations Unies dont voici les principaux titres. Et lancement à Kinshasa le samedi 25 novembre des activités sur les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. C'est à l'occasion de la journée internationale de l'élimination des violences à l'égard des femmes et des filles que célèbrent les Nations Unies à cette date. Le Forum régional des juges et hauts magistrats francophones sur le VIH, les droits humains et les populations clés s'est tenu pour la première fois du 28 au 29 novembre à Kinshasa. Ces assises ont bénéficié de l'appui technique de ONU SIDA et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). John Kambale, secrétaire de l'Association des jeunes et adultes pour le développement rural et urbain, une structure de la société civile de Loubero, est l'invité de cette édition du magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Comme annoncé dans le titre, le Forum régional des juges et hauts magistrats francophones sur le VIH, les droits humains et les populations clés s'est tenu pour la première fois du 28 au 29 novembre à Kinshasa. Ces assises ont bénéficié de l'appui technique du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et de ONU SIDA. Objectif, traiter les questions spécifiques de droits humains en lien avec le VIH, SIDA et les populations marginalisées. Ces travaux ont été lancés par le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, Tade Emambou. Jeff Opela pour d'autres précision.
Plusieurs juges et magistrats des différentes nationalités africaines ont répondu à ces rendez-vous. Ce forum met l'accent notamment sur un partage d'expériences en vue d'assurer la protection des droits des populations clés. Georges Bioc, analyste au programme VIH et Santé du PNUD, explique.
Pendant les deux jours du forum, les juges vont parler des lois, mais ils vont également parler, parce que beaucoup de juges ont été formés, des jurisprudences qui ont été rendues sur la base des acquis, des compétences qu'ils ont eu au cours des formations qui leur ont permis de rendre des jugements en faveur des personnes vivant avec le VIH qui ont été victimes de discrimination, de stigmatisation dans la communauté.
Suzanne Kassédé, directrice de l'ONU SIDA en RDC, s'est dit très satisfaite.
Nous réjouissons du fait que la RDC, avec les autres pays présents, ont profité de l'opportunité de se mettre ensemble pour apprendre ensemble et réaliser alors notre devoir envers nos compatriotes, bien sûr, pour exercer notre leadership dans le monde, pour montrer comment nous pouvons transformer la situation en Afrique sur la base des droits humains bien respectés, bien protégés.
Ce premier forum des juges francophones en République démocratique du Congo se clôture ce mercredi.
Restons à Kinshasa. Lancement samedi 25 novembre des activités sur les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. C'est à l'occasion de la journée internationale de l'élimination des violences à l'égard des femmes et des filles que célèbrent les Nations Unies à cette date. Le but est de conscientiser la presse congolaise ainsi que la population à s'investir pour un monde meilleur et sans violence avec comme thème « Tous unis, investir pour prévenir les violences faites aux femmes et aux filles ». Jeff Opela.
Un jeu de questions-réponses a caractérisé ces rendez-vous. Chaque cas de violence est un cas de trop et rien ne peut justifier la violence. Sur ces, pas d'excuses. A martelé Adama Moussa, les représentants pays de l'ONU Femmes en RDC.
La seule façon d'avoir des transformations importantes, c'est de faire en sorte que nous investissons dans la prévention, de faire en sorte qu'il n'y a pas d'excuses à ne pas investir, de faire en sorte que les survivantes ne soient pas laissées seules, qu'il y ait une solidarité agissante à tous les niveaux de tous les acteurs et de toutes les agences.
Le directeur du BCNUDH, Patrice Vara, pour sa part, exhorte à l'éradication du silence et de l'indifférence au regard de violences sur le genre pour avancer.
Il y a deux facteurs qui contribuent à maintenir une situation déplorable de violences faites aux femmes et aux filles. Le premier facteur, c'est le silence. Et le second facteur, c'est l'indifférence. Cette réponse n'appartient pas à notre société aujourd'hui. Aussi longtemps qu'on n'aura pas enlevé les obstacles au silence et à l'indifférence, face à cette situation, nous n'aurons pas fait assez.
Retenons que cette campagne de sensibilisation court jusqu'au 10 décembre 2023.
Cap vers le Congo central, inauguration lundi 27 novembre de l'usine de production de l'oxygène médical à l'Institut évangélique de Kimpese. Cette première usine de la province du Congo central est le fruit du partenariat entre le ministère de la Santé publique et l'organisation américaine Clinton Health Action Initiative. Reportage à Matadi de Nana Plurichmambo.
Cette usine d'une capacité de production journalière de 50 litres vise à remédier à la pénurie de l'oxygénothérapie au Congo central et pourra desservir tous les établissements de soins, tant publics que privés de Kimpese et ses environs. C'est pour promouvoir la qualité de l'offre des soins et des services dans différentes formations médicales du Congo central. Pour le docteur Symphonie Dimfumu, représentant du Tchai, cette usine doit être gérée de manière responsable.
Je souhaite donc que cette usine soit gérée avec beaucoup d'efficience et de responsabilité et que chacun des utilisateurs se rende compte de l'avantage que la province a. Je voudrais ici rappeler que cette qualité d'infrastructure n'est pas disponible même à Kinshasa dans tous les autres. C'est donc un avantage pour vous et un outil majeur.
Signalons que l'enquête menée en 2018 par l'École de santé publique de Kinshasa a démontré que seuls 6% d'établissements de soins disposaient d'oxygène médical. Et cette acquisition cadre avec les efforts du gouvernement et ses partenaires de répondre aux besoins en oxygénothérapie qui s'est fait sentir pendant la période de la pandémie de COVID-19. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Autre nouvelle dans ce magazine, à Beni, le programme alimentaire mondial PAM a repris le mercredi dernier la distribution de l'assistance en vivres en faveur des déplacés de la commune rurale d'Oïcha, chef-lieu du territoire de Beni, au nord Kivu. Le PAM avait suspendu ses activités il y a plus d'un mois suite à l'attaque de ses installations par la population en colère après l'incursion des rebelles ougandais qui avaient fait 27 morts. Une foule avait à cette époque incendié les camions du PAM transportant l'assistance aux déplacés. Des précisions avec le premier rapporteur de la société civile locale d'Arius Siaira.
Cette reprise des activités de distribution des vivres de l'organisme PAM constitue un ouf de soulagement puisque la population bénéficiaire continue déjà à vivre le calvaire. Vous êtes sans ignorer que l'accessibilité dans nos champs demeure utopique suite à l'insécurité grandissante et il nous a plu d'aller rencontrer les autorités de PAM pour bien vouloir négocier la reprise afin de sauver les vies humaines. Et alors, donc c'est vraiment un sentiment de joie ici au site d'Mbimbi puisque la distribution vient de commencer aujourd'hui mercredi et que donc tout le monde qui était identifié va bénéficier justement de vivres. Et aujourd'hui, dans le sac des bénéficiaires, on peut voir le sac de farine, des petits bidons d'huile, des haricots et du sel. Voilà en fait ce qui constitue les contenus même de cette quantité qu'ils sont en train de recevoir. Se voir auprès de l'organisme PAM au travers Caritas qui est en train d'exécuter sur place ici.
Clôturant cette page d'actualité au sud Kivu, plus de 170 enfants ont été retirés de groupes armés encore actifs dans les territoires du Kalehe. C'est le résultat des efforts menés par le PDDRC. Et ses partenaires qui militent pour le droit de l'enfant. Ces enfants attendent leur réinsertion communautaire suivie d'une prise en charge holistique. Rachel Kessembangou.
Les 172 enfants sont retirés des groupes armés Raia Mutombo Kikiriku, Butachibera et Bibilo. Parmi eux, 127 garçons et 45 filles. La procédure de leur certification est intervenue au cours d'une mission conjointe PDDRCS et les différentes agences de protection de droits de l'enfant. C'est notamment le service de la 33e région militaire, la division des affaires sociales ainsi que d'autres organisations comme le BVS, Bureau de volontariat pour l'enfance et la santé. Des sources du PDDRCS indiquent que ces enfants, ainsi retirés des rangs des groupes armés, sont placés dans des familles d'accueil transitoires pour une prise en charge holistique et leur réinsertion communautaire. Les mêmes acteurs poursuivent avec la sensibilisation auprès des groupes armés encore actifs au sud Kivu pour sortir tous les enfants associés à des groupes armés. Signalons que ces activités bénéficient de l'appui de l'UNICEF. Rachel Kessé, Bukavu, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le magazine des Nations Unies reçoit dans ce premier entretien une fois de plus l'officier militaire du bureau du porte-parole de la MONUSCO, le major Hassan Keira. Il parle de la collaboration entre les casques bleus, les FARDC et les autorités locales dans les actions visant à contribuer à la protection civile dans l'Ituri, le Nord et le Sud Kivu. Le major Hassan Keira s'entretient à Goma avec Sifa Maguru.
Major Hassan Keira, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes officier au bureau du porte-parole militaire de la MONUSCO. La MONUSCO a lancé l'opération Springbok visant à assurer une protection optimale de la ville de Goma et de Sake. Pouvez-vous nous dire dans quel contexte cette opération s'inscrit et nous décrire un peu son déroulement?
La situation sécuritaire actuelle et les combats entre les groupes armés locaux et le M23 dans les régions de Kichanga, Masisi, Rutshuru et Nyiragongo ont entraîné des pertes en vie humaine, des déplacements et des dommages à la majorité de la population civile. La MONUSCO, en collaboration avec le gouvernement de la RDC et conformément à son mandat, a soutenu les FARDC dans la recherche de la paix dans la région et surtout dans la protection des civils à tout prix. Le M23 a progressé vers le sud en direction de Sake et Goma, ce qui a conduit la MONUSCO à lancer l'opération Springbok. L'objectif principal de cette opération conjointe entre la MONUSCO et les FARDC est la protection des citoyens de Goma. Goma est le plus grand centre de population de l'est de la RDC avec beaucoup de camps de personnes déplacées. Nous avons déjà déployé nos troupes sur le terrain et elles sont prêtes à stopper toute tentative d'invasion de Goma. Il s'agit d'une position défensive et la MONUSCO est prête à intervenir si nos forces sont engagées par un groupe armé illégal qui tente d'entrer dans Sake ou Goma. De même, si les FARDC demandent notre soutien ou elles sont attaquées, la MONUSCO est prête à fournir le soutien.
Parlons de l'Ituri. Les groupes armés Codeco continuent à commettre des actions malicieuses dans cette partie. Quelle est la situation?
Le 29 octobre dernier, trois individus armés de machettes ont semé la panique au village de Chubert. Du coup, la MONUSCO a envoyé une patrouille des soldats de la paix du Bangladesh pour dominer et assurer la protection des civils dans cette zone. Aussi, le réseau d'alerte communautaire a reçu une information concernant une incursion par le groupe armé Codeco le 3 novembre dernier, au niveau de Blokwa, où ces mercenaires ont attaqué des personnes civiles et tiré plusieurs coups de feu. Ces personnes ont réussi à s'enfuir et ils ont rapporté cet incident aux dirigeants des personnes déplacées internes de Rau. Le bataillon Bangladesh du déploiement rapide de la MONUSCO a envoyé sur le champ une patrouille pour dominer l'axe Blokwa au Kapidjissa. De ce fait, la situation sécuritaire est calme et normale. Aussi, le 4 novembre dernier, le Banardébé de la MONUSCO a envoyé une patrouille pour dominer l'axe Djissa-Larue en réponse à une alerte concernant une probable agression par le groupe armé Codeco dans cette région. La MONUSCO a également partagé cette information avec les FARDC de Masombuko et a sensibilisé le réseau d'alerte communautaire pour la protection des civils. Et durant cette opération, des tirs ont été entendus à partir du sud-ouest vers la direction de Djissa-Okapi. La patrouille de la MONUSCO s'est rendue en compagnie des FARDC sur les lieux pour mettre fin à la confrontation entre les groupes armés Zaïre et Codeco en tirant des coups de semence. La patrouille a ensuite dominé les zones environnantes de Blokwa, Djissa, Okapi et l'Arc Bazar pendant toute la nuit.
La MONUSCO travaille en collaboration avec les FARDC pour contrer les groupes armés comme ce qui se passe en territoire des Djougou. Alors, quelle a été la réaction des casques bleus?
Justement, le 8 novembre dernier, la base opérationnelle permanente de la MONUSCO à Fataki, située à 12 km au nord-est de Djougou, a été informée de la présence de nombreux combattants du groupe armé Codeco dans la région de Lébi, à 20 km au nord-est de Djougou. Et des échanges de tirs en cours entre le groupe armé et les soldats des FARDC. En réponse à cette information, la base de Fataki a envoyé une patrouille dans la région de Lébi. Là, la patrouille a observé des mouvements des individus du Codeco sur une colline située à environ 300 mètres au nord-ouest du camp des FARDC à Libye, qui était en état d'alerte. Et les FARDC ont informé la MONUSCO que ces milices se dirigeaient vers le marché de Libye et ont demandé à la MONUSCO de mener une patrouille conjointe dans cette zone. Alors que les troupes de la MONUSCO et les FARDC s'approchaient du marché de Libye, les malfaiteurs ont ouvert le feu sur nos militaires. En réponse à cette agression, les soldats de la MONUSCO et les FARDC ont tiré à leur tour sur les milices de la CODECO. En conséquence, les assaillants ont quitté la zone et se sont dirigés vers le nord, incendiant certaines maisons précédemment libérées.
Major Hassan Keïra, merci pour ce point sur la situation sécuritaire.
Depuis le 7 octobre dernier, les combats qui font rage dans les territoires de Rutshuru et de Masisi dans la province du Nord Kivu ont eu comme conséquence directe le déplacement de plus de 450 000 personnes. Ces dernières rejoignent des millions d'autres déplacés dans le pays. Se sont alarmés la semaine dernière l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Aujourd'hui encore, chaque minute, une personne meurt du sida. Nous pouvons et nous devons mettre fin à la menace qu'il fait peser sur la santé publique d'ici à 2030. Pour atteindre cet objectif, il faut mettre en application le thème de cette année, confier le leadership aux communautés. C'est ce qu'a déclaré Antonio Guterres dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida commémorée le 1er décembre. Le patron de l'ONU a aussi relevé les progrès accomplis dans la lutte contre cette maladie. Il a souligné notamment que les décès liés au sida ont chuté de près de 70% depuis 2004, année la plus meurtrière, et que le nombre de nouvelles infections à VIH est au plus bas depuis les années 1980.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le magazine des Nations Unies reçoit comme invité John Kambale, secrétaire de l'Association des jeunes et adultes pour le développement rural et urbain, une structure de la société civile de Lubero. Il répond à la préoccupation d'après le départ de la MONUSCO qui ferme sa base militaire à Lubero au plus tard le 31 décembre 2023. Cette fermeture intervient dans le cadre du retrait accéléré de la mission onusienne de la RDC. Et quel est l'héritage de la MONUSCO dans le territoire de Lubero en termes de sécurisation civile et de restauration de l'autorité de l'État et quels mécanismes mettre en place pour pérenniser les acquis de la présence de la MONUSCO dans ce territoire? John Kambale répond à cette préoccupation.
John Kambale, bonjour.
Bonjour Radio Okapi.
La MONUSCO va fermer son bureau ici à Lubero pour répondre à la demande du gouvernement qui demande un retrait accéléré de la mission. Comment réagissez-vous à cette décision?
Nous constatons que la MONUSCO va à très bientôt sortir ou elle est en train de sortir. Nous l'acceptons parce que c'est notre gouvernement qui a estimé que ce partenaire devra partir. Mais avec tout ce que nous avons comme contexte, un contexte politique où c'est la situation électorale qui bat record, un contexte de présence et d'activisme des groupes armés, bien que locaux, mettrait ainsi dit, c'est un contexte de la non-instauration de l'autorité de l'État, pourtant un des grands piliers de la mission onusienne dans la zone, contexte de la problématique due à la cohabitation pacifique des communautés sur plusieurs secteurs. C'est un contexte où les acteurs de la société civile ont besoin d'une protection particulière en termes d'alerte qu'ils étaient en train de faire. Dans la citoyenneté responsable, nous devons nous assumer.
Quel est, selon vous, l'héritage que laisse la MONUSCO dans la région de Lubero?
Nous avons beaucoup hérité de la mission, c'est-à-dire sur le plan mental. Je ne peux même pas compter des séances de renforcement des capacités des acteurs de la société civile, des acteurs politico-administratifs et militaires, des acteurs à tous les niveaux, de la jeunesse. La MONUSCO est en train de sortir pendant que les structures de la société civile viennent d'être organisées selon les groupes thématiques. Sur le plan logistique et infrastructurel, à Lubero, ici où vous vous retrouvez, il y a les marchés à côté, il y a la maison de la paix pour la femme, la route Bukano-Moulo est maintenue par la mission à travers sa section DDRS, le bureau de la chefferie de Batangi, c'est les affaires civiles, les marchés de Kirumba, de Kanyabayonga, la maison pour la femme à Kanyabayonga, la maison carcérale pour les femmes, mais également il y a une maison de rééducation pour les enfants avec le LPC, les îlots de stabilité, les IOS. On a été à mesure de canaliser les informations on est en mesure de monitorer les situations, et monitoring journalier et hebdomadaire. Au moins, chaque communauté, dans chaque entité, on est en mesure de mettre en place un plan de protection communautaire dans l'approche de gouvernance communautaire. On est aussi en mesure de mener un plaidoyer.
Mais en même temps, certains disent que ce n'est pas le moment de se désengager de l'Ubero, territoire, comme vous le savez, où on compte énormément de groupes armés locaux. Qu'en dites-vous?
Nous devons nous assumer. Pour des raisons peut-être électorales, les gens ont manifesté leur indignation contre un partenaire plus important. Aujourd'hui que le gouvernement a pris acte, parce que le souverain primaire, c'est le peuple congolais, je crois que les chefs de l'État n'avaient pas tort de le faire, tout en passant que c'était à la volonté du peuple. Que les gens étaient en train de demander le départ sans savoir ce que ça signifie, nous allons aussi porter les conséquences.
Une dernière préoccupation, quelle est la situation sécuritaire actuellement à l'Ubero?
La situation sécuritaire actuellement à l'Ubero, elle est volatile parce qu'il y a les sécurités. À gauche, ce sont les groupes armés. Et le territoire de l'Ubero, c'est parmi les rares territoires, malheureusement négativement, qui est occupé à, je peux dire même 80 à 90%, c'est sous contrôle des groupes armés. Vous voyez les tableaux des camps de sida, les tableaux de violences sexuelles basées sur les genres, les tableaux de violations des droits humains. La situation de l'Ubero va du mal au pire. À l'Ubero, l'interprétation des groupes de vigilance pose aussi problème. Ce sont les armes qui circulent les gauche et droite. Et donc, il n'y a pas un mécanisme de récupération d'armes, un mécanisme de gestion des groupes armés. Je pense que c'est par grâce que nous vivons à l'Ubero. Le tableau est très sombre.
John Kambale, merci.
C'est à moi de vous remercier.
Direction l'Ituri, une vingtaine d'officiers de la police congolaise réfléchissent sur la réforme du secteur de la sécurité en RDC. Ces échanges étaient organisés le mercredi dernier par la section de réforme de la sécurité de la MONUSCO et visent à faire une analyse des avancées et des défis liés à la mise en œuvre de cette réforme et à renforcer les mécanismes de coordination provinciale. Le plan de réforme des services de sécurité a été adopté en 2009 en vue de rendre les forces de sécurité de la RDC plus professionnelles, précise les formateurs. Selon le chef intérimaire de la MONUSCO en Ituri qui a ouvert ces discussions, c'est en prévision du retrait de la mission onusienne dans le cadre du transfert des compétences. Léopold Nyoki, au micro d'Isaac Rimeopé.
Comme vous le savez, la République démocratique du Congo a entrepris des réformes profondes dans le secteur de la sécurité afin d'améliorer l'efficacité, la transparence et la redevabilité de ses forces de sécurité. Mais cependant, la coordination des efforts au niveau provincial reste un défi majeur qui nécessite une attention particulière pour garantir le succès global de la réforme. La MONUSCO intervient au niveau stratégique dans la mise en œuvre de ce que nous appelons communément l'acronyme RSS à travers la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies qui a fait des plaidoyers auprès du président de la République et le Premier ministre pour que la question de réforme du secteur de la sécurité soit mieux appropriée au niveau politique le plus élevé.
Magazine des Nations Unies. Questions aux Nations Unies.
À l'égard de toutes les manifestations qui ont été organisées contre la MONUSCO, est-ce que vous pensez que le rôle de casque bleu est mal compris et que la désinformation joue un rôle dans la perception de la mission? Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, a répondu à cette interrogation. C'était lors de son passage à New York dans une interview accordée à ONU Info. On l'écoute.
Alors, très clairement, je crois qu'il y a souvent un très grand décalage entre ce que peuvent faire les casques bleus en termes de protection physique et aussi un très grand décalage entre ce que le mandat, la compréhension du mandat par la population ou même par les élites du pays. Et donc, dans ce grand décalage, il y a la notion que aucune personne dans les trois provinces où nous sommes déployés ne peut perdre la vie et ne peut être blessée parce que les casques bleus sont présents. Et ça conduit à des frustrations, à de la colère. Et cette frustration et cette colère se déversent de plusieurs manières, dans les réseaux sociaux, à travers la mésinformation, la désinformation, et même des appels à attaquer les casques bleus parce que on considère qu'ils ne font pas leur travail. Mais c'est aussi une forme de désespoir finalement, parce que l'attente est tellement grande que ils sont déçus et ils pensent que d'avoir toute cette violence verbale, ces incitations à la violence à travers les mots, va amener à une posture différente. Or, je peux vous dire que les casques bleus font le maximum de ce qu'ils peuvent faire sur ce vaste étendue que est la République démocratique du Congo, et notamment ces trois provinces, parce que personne ne peut imaginer qu'il n'y a quasiment pas de route, l'infrastructure est extrêmement pauvre, et que même quand les gens disent c'est quelques kilomètres, en fait c'est quelques kilomètres, c'est plusieurs heures pour parcourir, même avec un véhicule bien rodé, c'est quelques kilomètres. Et donc la mésinformation, la désinformation, pour nous, on la prend très au sérieux parce qu'elle a conduit l'année dernière à des morts d'hommes, aussi bien du côté des Congolais que du côté des casques bleus. Et maintenant, donc, nous savons que c'est une autre bataille qu'il faut avoir en étant proactif vis-à-vis de la désinformation.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Deux dates à retenir dans vos agendas pour la semaine qui commence. Le 5 décembre, c'est la journée mondiale des sols. Et le 9 décembre, la journée internationale contre la corruption. Et c'est la fin de cette émission à retrouver sur www.radiocapi.net. Merci de votre attention. Jean-Noël Mokondo à la technique, Babel Pongo Massimango au micro. L'émission est produite, coordonnée et réalisée par Jeff Opela. À dimanche prochain pour un nouveau numéro de Mac UN. Excellente suite de programme sur la fréquence de la paix.